franceinter.fr.
France Inter, il est 8h30. L'heure de la revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Marion et bonjour à tous. Demain, cela fera 50 ans. 50 ans que les femmes mariées peuvent ouvrir en France un compte bancaire à leur nom sans avoir à demander l'accord de leur mari. 50 ans, seulement 50 ans. Une indépendance financière acquise grâce à la réforme des régimes matrimoniaux du 13 juillet 1965 qui a fait beaucoup pour la condition féminine ainsi que le rappelle le mensuel Cosette. Jusque-là, en vertu du code napoléonien, les femmes étaient légalement considérées comme incapables au même titre que les enfants et les malades mentaux, elles n'avaient aucun droit juridique et passaient ainsi de la tutelle de leur père à celle de leur conjoint. C'est ce que raconte la pétulante Thérèse Claire, 88 ans, figure emblématique du féminisme français. Elle se souvient de ce qu'était sa vie avant la réforme. Son mari lui donnait une somme fixe au début du mois, ensuite à elle de se débrouiller pour gérer les dépenses, acheter la nourriture, habiller les enfants. Le problème, c'est que le dit mari, qui n'était pas un bon mari, ne lui donnait jamais assez. Et du coup, confie-t-elle à Audrey Lebel, pour finir le mois, je faisais ce que font les prostituées, j'étais gentille comme tout, je lui faisais tout plein de petites gâteries. Elle se souvient aussi que certaines de ses amies ramassaient toutes les pièces que laissaient traîner leur époux, lesquelles exigeaient d'elle qu'elle rende des comptes au centime près, petite mesquinerie conjugale qui semble aujourd'hui d'un autre âge. Alors bon, évidemment, il reste encore du chemin à faire, certes. Les femmes ont donc gagné leur autonomie financière, mais elles continuent d'être payées nettement moins que les hommes. Du reste, il existe toujours une quinzaine de pays dans le monde où elles n'ont toujours pas le droit de travailler, si ce n'est avec l'autorisation de leur mari. C'est le cas notamment de l'Iran, de la Bolivie, du Gabon et de la Syrie.
La Syrie où, de fait, on bafoue tous les droits, surtout dans les zones tombées aux mains du groupe État islamique.
Lire à ce sujet le reportage glaçant d'Alfred de Montesquieu dans les colonnes de Paris Match. Il s'est rendu en Turquie, où il a rencontré des réfugiés syriens qui ont fui la ville de Raqqa. Rencontre avec Abdelkarim, un vieil agriculteur qui pensait tout d'abord pouvoir cohabiter avec les djihadistes. Parce qu'au départ, dit-il, tout nous semblait mieux que les ordures du régime de Bachar al-Assad. Mais il a rapidement constaté que c'était encore pire, notamment à cause de la police de la charia, l'impitoyable Hizba qui fait régner la terreur. D'après Abdelkarim, les hommes qui la composent sont avant tout des étrangers, des Tunisiens, des Algériens et des Tchétchènes, mais aussi de nombreux Occidentaux, des Allemands, des Américains, des Belges et beaucoup de Français. Et ce sont donc les hommes de cette police islamique qui tuent à tour de bras. Un jeune est soupçonné de fumer du hashish, il est décapité. Une femme refuse de porter le voile intégral, une balle dans la tête. L'agriculteur raconte aussi cette scène terrible des chrétiennes et des yézidis vendus comme esclaves sur la place du marché, esclaves signifiant esclaves sexuels en premier lieu. Elles étaient attachées par les mains, certaines n'étaient que des petites filles, elles pleuraient comme des fontaines, et si elles tombaient par terre, on les relevait à coups de pied. Une scène qui là aussi nous paraît d'un autre âge, et pourtant non, c'est aujourd'hui à Raqqa, en Syrie, le quotidien dans une ville tenue par le groupe État islamique. Un groupe auquel le terroriste Hamedi Coulibaly disait avoir fait allégeance. Coulibaly, l'auteur de la prise d'otage de la supérette hyper cachère porte de Vincennes à Paris, c'était le 9 janvier. Et pour la première fois, le patron de l'équipe de la PJ parisienne qui a mené l'assaut raconte l'opération dans le journal du dimanche.
Il s'appelle Christophe Molmy et dirige la BRI, la brigade de recherche et d'intervention.
On a mis 12 minutes pour arriver sur place. Aussitôt, des colonnes d'assaut ont été mises en position. Vous disposiez alors de quelles informations, lui demande Stéphane Joigny. C'est d'abord l'employé, Lassana Batili, qui nous donne les clés du magasin et du rideau métallique. Puis le gérant nous permet d'accéder au système vidéo. Sur les images enregistrées, on voit Coulibaly entrer et tirer. Très rapidement, on a aussi des familles qui nous mettent en contact avec les gens retenus dans le magasin. Et on a pu parler à de nombreux otages qui nous ont décrit précisément ce qui se passait. Coulibaly les laissait téléphoner librement? Oui, il les laissait faire ce qu'ils voulaient, manger, boire et téléphoner. Il leur avait dit « profitez parce que vous allez mourir ». Ensuite, Christophe Molmy raconte les négociations avec celui dont il savait qu'il avait déjà tué 4 personnes. Il était calme et posé, il ne s'énervait pas. Puis la BRI fait sauter la porte de service. « Mais vous m'attaquez ?» lance Coulibaly toujours au téléphone. Le négociateur confirme et lui dit « il y a des soldats qui viennent vers toi, t'es un soldat, va te battre ». Mardi prochain, cet homme de la BRI, dont un, avaient été blessés dans l'assaut de l'hypercacher, défileront à Paris sur les Champs-Élysées avec leurs collègues du GIGN et du RAID. Ils seront même en tête du cortège.
Dans la presse, on parle d'ailleurs beaucoup de la préparation de ce défilé pour la fête nationale.
L'Ardennais nous emmène ainsi dans les coulisses avec les hommes du 3e régiment du génie. L'Union, de son côté, nous fait découvrir le 1er régiment d'artillerie de marine. Quant aux Parisiens, ils profitent de l'occasion pour nous faire découvrir le 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, 500 chiens entraînés sur une base dans la Marne, notamment pour détecter les explosifs des bergers allemands et des bergers belges malinois sélectionnés sur la qualité de leur mordant, leur physique et leur capacité à supporter les coups de feu. Mais ce 14 juillet fait aussi polémique, car François Hollande a invité le président du Mexique et que les cadets de l'armée mexicaine participeront au défilé, une invitation qui passe mal, ainsi que le rapporte Le Monde. Des associations des droits de l'homme dénoncent les exactions commises par la dite armée dans la lutte menée contre le narcotrafic. Sans doute, François Hollande en dira-t-il un mot dans sa traditionnelle intervention télévisée. Même s'il y a fort à parier qu'il parlera surtout de la situation en Grèce, les négociations à Bruxelles ont duré jusque tard dans la nuit. Elles devraient reprendre en fin de matinée. Et après le soulagement d'hier et même l'optimisme d'hier, c'est l'incertitude et même l'inquiétude qui domine de nouveau ce matin. La Grèce restera-t-elle dans l'euro ? S'interroge ainsi le journal du dimanche, qui évoque une Europe qui se déchire violemment. Le JDD, dans lequel vous lirez aussi une tribune de François Fillon, une lettre au chef de l'État en forme de réquisitoire. Fillon dresse un tableau très noir de la situation du pays, un pays où la colère gronde, un pays qui se paupérise. La tragédie grecque, écrit-il, montre que la menace de faillite n'est pas abstraite pour la France, une France qui, d'après lui, a perdu sa fierté. Fierté perdue, pas en cyclisme, un cocorico ce matin. Car tous les journaux applaudissent la première victoire française sur le Tour de France. C'était hier à Mur de Bretagne, victoire d'Alexis Vuillermoz. Et le visage du jeune champion, bras levé, regard vers le ciel, s'étale à la une de l'équipe qui l'a trouvé formidable. Et puis, puisqu'on parle de cyclisme, retour au magazine Cosette qui nous explique que le vélo a lui aussi fait beaucoup pour la condition féminine, notamment parce qu'il a engendré l'adoption du pantalon pour femmes, et même l'abandon du corset, et puis il a permis aux jeunes filles de s'éloigner de la surveillance de leurs parents, et parfois d'aller nouer des relations amoureuses, en somme. Vive le vélo.
Merci Frédéric Pommier. La revue de presse, on vous retrouve dimanche prochain.